lavostok.ch. Radio Vostok, il est 20h.
Mais sans le E du coup?
Non, sans le E, le E il est dans la Vostok.
Ah, il est parti de la Vostok.
Dans la Vostok,
c'est pas clair.
Non, c'est pas la grande messe, c'est la grande messe.
La grande messe, la Vostok. Ok, vous avez perdu le E.
La grande messe sur la Vostok.
Ça y est, c'est l'été. Et avec lui, ce rituel presque religieux qu'on peut résumer un peu comme ceci. Tu croises une personne au travail, au café, au théâtre, et tu lui dis « Hey, salut, comment tu vas ?» Et la personne te répond « Bien, et toi ? Tu pars cet été ?» Et tu réponds « Oui, je pars, insérer l'endroit où tu pars, et toi ?» La personne répond « Oh, génial, moi, je pars, insérer l'endroit où tu pars. » À noter que plus le lieu est exotique et éloigné, plus ton voyage aura de la valeur. Et tu réponds « Waouh !» Alors profite bien. Voilà. C'est le rituel des conversations d'été. Est-ce que tu vas vraiment bien profiter des vacances? Ça, tu n'en es pas sûr. C'est beaucoup de pression. Et tu ne sais d'ailleurs pas très bien ce que ça implique, ce profit, ce bon profit du déplacement estival. Parfois, la conversation prend une tournure encore plus mystérieuse. Quand ton interlocuteuriste te félicite parce que l'endroit où tu vas n'est pas très touristique. Et là, tu es précipité dans une boucle contradictoire et cyclique que je nommerai pour vous ce soir le paradoxe de l'AE touriste. Ce paradoxe m'est apparu l'été dernier, lorsque j'étais en vacances dans mon pays d'origine, la Grèce. En faisant du stop sur une île, je suis tombée sur un couple de Français-Françaises, la cinquantaine, qui ont assez rapidement décidé de me faire part de leur mécontentement face à l'augmentation du tourisme sur ladite île. L'homme du duo se lance alors dans une grande explication concernant les changements qu'il a observés lors de ses 30 dernières années de voyage. À l'époque, me dit-il, il n'y avait personne. Juste des pêcheurs, une seule taverne et le bruit des vagues. J'ai tout de suite voulu ajouter une chose à sa liste. Des pêcheurs, une taverne, le bruit des vagues et toi. Dans cette histoire, il y avait aussi toi. Le touriste, toi, et ensuite un autre toi, et un autre toi, et un autre. Et tous ces toits feront qu'un jour, une autre taverne va devoir ouvrir, et un autre hôtel. Et peut-être que la famille de pêcheureuses va louer leur maison sur Airbnb pendant la période estivale. Et ensuite, peut-être que toi et les autres toi allez acheter des terrains ici parce que vous avez le pouvoir d'achat nécessaire. Et alors, un très grand supermarché fera son arrivée. Et la famille de pêcheureuses ne pourra plus vendre ses poissons parce que le supermarché aura ses propres fournisseuses et que ce sera probablement de la pêche industrielle et des poissons venant de très loin. Et ensuite, un grand hôtel avec piscine va pousser sur ta plage préférée. Et un jour, tu vas venir et tu vas dire « Oh merde alors, c'est trop touristique ici ». Mais quand tu diras ça, tu penseras pas que c'est toi, mais les autres toi. Les touristes, c'est toujours les autres. Et puis tu partiras sur une autre île, une île moins touristique, où il n'y a que des pêcheureuses, une taverne, le bruit des vagues, et toi. Vous l'aurez compris, ce soir on va vous parler de tourisme de masse, avec un focus sur les îles. Parce que chaque été, leur population augmente, parfois jusqu'à 200 fois, c'est le cas à Mykonos par exemple, et que ça pose énormément de problèmes par rapport à l'approvisionnement en eau, à la gestion des déchets, à la destruction des écosystèmes, à la bétonisation des oliveraies, à la pollution sonore, aux incendies dévastateurs, à la qualité de vie des habitants tex. Ces problématiques sont éminemment féministes. Rappelons ici que le travail invisible d'entretien, de nettoyage, ainsi que le travail de divertissement incessant que ces grandes structures touristiques nécessitent, sont presque essentiellement assurés par des personnes sexisées, des personnes précaires, des personnes racisées. Le tourisme de masse met en lumière les inégalités de pouvoir d'achat entre le Nord et le Sud global, la commodification des expériences, des personnes et des lieux, les projections et représentations exotisantes, le peu d'égards pour ceux qu'on laisse derrière nous quand on en a fini de nos vacances. Et je dis « on » parce que moi aussi, je suis touriste. Moi aussi, je dis des choses comme « oh, cette activité est trop touristique ». Comme si moi, je suis exempt de cette caractérisation. Moi aussi, j'ai un rapport complexe et confus avec ce que je cherche quand je voyage. Les touristes, c'est toujours les autres. Mais les autres des autres, c'est nous.
Ha 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 Au sommaire de cette dernière émission avant le grand plongeon estival, nous allons avoir plein de petites surprises à partager autour de cette vaste thématique du tourisme, vaste à l'image de notre planète, alors que 95% des touristes se rendent sur moins de 5% du globe. Notre invité du soir nous vient d'une île touristique de Méditerranée, anciennement royaume, où on y mange des glaces, les pieds dans l'eau cristalline. On y a tourné des westerns, il y a des flamants roses et tout ce dont on rêve pour des vacances déconnectées. Et oui, je parle de la Sardaigne. Mara Ouzaï est sarde donc et sera notre invitée tout au long de cette émission grâce à la technologie virtuelle moderne. Nous allons écouter ses messages vocaux en réponse à nos questions. Mara Ouzaï est architecte et urbaniste de formation. Elle s'intéresse à la transformation du territoire et elle a participé à une recherche-action dans l'archipel de Maddalena avec son collectif italien Hétérotopia. Nous aurons également une chronique d'Alba qui est avec nous en studio. Salut Alba.
Hola Candice.
Des projets de vacances pour cet été ?
On va rester par ici.
Et enfin, pour terminer cette émission, le désormais incontournable agenda qui dévoilera tous les bons plans de l'été. Et c'est Laure qui a fait sa sélecta des meilleurs événements. Salut Laure.
Hello.
Et toi, tu vas où en vacances ?
Le plus loin possible, je crois.
Ok, alors beaucoup de suspense. Mais sans plus attendre, jetons-nous à l'eau. On a demandé à Mara pourquoi et comment les îles sont particulièrement impactées par les effets néfastes du tourisme de masse.
Moi, j'aimerais bien vous parler du cas de la Sardaigne et de l'impact que moi, j'ai pu en tout cas observer ou étudier en tant que quelqu'un qui se penche sur les questions des transformations territoriales. Justement, du changement du territoire de cette île qui s'est adapté et qui a été de quelque manière guidé par le phénomène du tourisme. D'abord, il faut partir déjà de l'information que le tourisme, comme on l'entend aujourd'hui, c'est un phénomène assez nouveau, assez contemporain. C'est-à-dire que avant les années 50, 60, du XXe siècle, en Sardaigne, il n'y avait pas une idée de habitation temporaire, visite de ce territoire, surtout par les étrangers. Après, il y a juste certaines localités qui deviennent assez explorées, comme la chanson « Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero » nous le dit. Mais plutôt en fait, jusqu'aux années 60, tout ce qui était endroit de vacances, de retraite, estivale, saisonnière, s'est dédié pas mal aux locaux. Peut-être c'est que j'ai envie de vous raconter, c'est un événement en particulier qui a eu lieu dans les années 60, qui a, je trouve, un peu marqué un moment de changement radical dans la conception de ce territoire comme un territoire quelque manière consommable pour le tourisme, dans le sens mauvais du terme. C'est dans les années 60, l'anecdote raconte que l'imam Aga Khan survole les côtes de la Sardaigne avec son hélicoptère Et en voyant un morceau de territoire sur la côte nord-est, il le pointe du doigt et il dit « je veux ça ». Moi, je veux occuper ce territoire, je veux le acheter et je veux en faire un lieu. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Aga Khan, dans les années 60, je pense à partir du 62, créait ce qu'aujourd'hui on appelle la Costa Smeralda, qui est du coup vraiment un enclave qui est... à disposition, en fait, un enclave de luxe déjà, et du coup permet d'accueillir un public et du tourisme de luxe, justement des riches et des VIP. Pourquoi ce phénomène change énormément le setting du territoire sarde lié au tourisme? Bah déjà, comme c'est un peu sous-entendu dans vos questions, il y a carrément une vision effectivement presque quelque façon colonialiste ou en tout cas d'occupation en fait étrangère d'un territoire, parce qu'en fait cette création de la Costa Smeralda a eu lieu parce que lui il a pu acheter des territoires à des éleveurs. Pour eux, ces territoires sur la côte valaient pas trop parce que ils pouvaient pas mettre leurs animaux là-dedans. Et du coup, ils ont vendu tout ça pour trois fois rien. Et lui, il en a créé un empire spéculatif. Et puis, de ce moment-là, même dans le reste de la Sardaigne et même les locaux, en créant de maisons, de deuxièmes maisons au bord de la mer et des trucs comme ça, chercher cette sorte d'esthétique de Costa Smeralda, comme on dit. C'est une esthétique du coup d'infrastructures qui existent juste pour accueillir ce type de tourisme, ce type d'habitation. Qui n'ont rien à voir avec avec la culture du territoire, qui sont très détachés et qui du coup en fait créent petit à petit plein de lieux comme de chercheurs les appellent irrésolus. C'est des lieux qui, à part cette utilisation commerciale et des consommations d'un territoire, n'ont pas d'autres fonctions et sont complètement détachés de tout le reste de la vie du territoire. Du coup, voilà, pour moi, ça marque un point de départ, effectivement, d'un changement néfaste, effectivement, du territoire de la Sardaigne, qui aujourd'hui encore... continue qui a continué jusqu'à les dernières 20 ans où il y a eu tout d'un coup une politique très ferme, publique et souhaitable effectivement, où on s'est dit bah déjà on construit plus au bord de côte, on arrête les effets du tourisme de masse comme par exemple la dégradation des biotopes et des certains endroits protégés d'un point de vue paysager et écologique. Et du coup aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on applique des lois en contraste complet de ce tourisme de masse et de ses effets, où en fait on a un peu la sensation qu'on vit soit tout ou rien, et aujourd'hui c'est un peu rien. Ce qui, comme je disais, c'est souhaitable parce que ça protège carrément le territoire. Et d'un côté, ce n'est pas non plus une réponse à comment vraiment cohabiter avec ce besoin, peut-être effectivement, d'avoir quand même une économie touristique.
C'est marrant cette histoire que c'est les hommes qui s'accaparent les côtes et qui un imam dans son hélico qui dit « je veux ça ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? Enfin, je sais pas, c'est très masculin, ce truc un peu conquistador.
Oui. C'est marrant, mais c'est pas très surprenant, j'ai envie de dire.
Oui.
Je pense que, bon, malheureusement, maintenant, le tourisme de masse concerne tout le monde, mais effectivement, cette idée de vouloir posséder un lieu...
Et puis aussi le posséder au détriment, en fait, des personnes. Exactement. Qui sont déjà là et puis qui vivent là, qui ont leur maison et leur famille. C'est que dans le tourisme de masse, il y a aussi beaucoup ce truc de virer les personnes de leur maison, d'en faire des Airbnb. Et ça va aussi avec tous ces liens de propriété que les gens ont sur les terres.
Oui. Et il me semble qu'on dise que tu avais une information cruciale sur l'actualité brûlante du tourisme.
Oui, parce que en fait, quand on pense à la structure des îles, on pense aussi en fait à des ressources qui sont limitées, liées à l'insularité et notamment l'eau, et ce qui est assez présent dans, on va dire, l'ère actuelle. Et Capri, en fait, a récemment, là, depuis samedi dernier, est en situation d'urgence et a interdit l'accès aux touristes parce que les réservoirs sont déjà à sec. Alors qu'au 22 juin, on se dit qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est quand même un signe assez alerteur pour la suite. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour comprendre et prendre des mesures significatives?
J'ai aussi vu aujourd'hui que, bon, évidemment, les incendies ont commencé en Grèce depuis quelques semaines. Et là, il y a un énorme incendie à Sérifos, une île des Cyclades. Et c'est souvent aussi lié au tourisme et à l'accumulation des déchets. Qui peuvent pas être débarrassés de l'île aussi rapidement que ce qu'ils apparaissent.
On peut aussi citer Venise, là, qui a instauré, c'est la première ville au monde maintenant qui a fermé aux touristes certains jours par année, alors pas fermé aux touristes, mais qui met une taxe pour rentrer dans la ville les jours les plus populaires. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi intéressant cette idée de taxer des endroits, parce qu'on a tellement abusé des ressources, on a tellement abusé du lieu. On essaie de refuser les touristes et je ne sais pas si en fait aussi tous les pays peuvent se le permettre, s'il n'y a pas aussi un peu un luxe de pouvoir se retirer des touristes maintenant.
Surtout que Venise, en fait, si j'ai bien compris, c'est donc pour les personnes qui viennent à la journée et qui ne séjournent pas dans les hôtels ou Airbnb, donc qui n'ont pas cette taxe déjà du tourisme, et qu'il y a des contrôles en fait, qui se font de manière plus ou moins aléatoire, et donc si tu n'as pas payé, en fait, tu deviens illégal. Donc il y a vraiment en fait, ce droit d'entrer dans la cité où on sort complètement du principe démocratique, quoi.
Mais par un abus en fait, de trop de monde qui a été.
Oui.
Puis, enfin, c'est vraiment ce truc, c'est la plupart des pays maintenant veulent du tourisme, essaient de l'encourager. Mais à quel moment, en fait, c'est bénéfique? Parce que ça peut être bénéfique pour beaucoup de pays, mais aussi hyper délétère.
Et à quel moment, enfin, qui on est pour dire, en fait, toi, tu as le droit et toi, pas? En fait, c'est aussi cette privation. Bah, c'est vrai que c'est juste ce que tu disais, Chris, dans ton billet d'humeur en intro. En fait, on est tous touristes et on est tous le touriste de quelqu'un. Et même si chez nous, ça nous questionne, bah, en fait, il y a bien un moment où on va le faire ailleurs et on va reproduire. Donc, est-ce qu'on est prêt à à priver certaines personnes et aussi à nous priver nous-mêmes?
C'est un peu ce dont parle Mara aussi, justement, dans cette politique de tout rien en Sardaigne, où maintenant, c'est aller tellement vite que maintenant, il y a un peu ces nouvelles politiques radicales de quotas ou de taxes. Et on ne sait pas.
Et même à Venise, en fait, il y a des caméras de surveillance partout. Et en fait, toutes les données sont filtrées. En fait, vu que tout le monde a un téléphone et reçoit un message quand il entre dans le pays, en fait, on collecte les données des opérateurs. Donc, en fait, on sait d'où les personnes viennent. On les filme. Enfin, il y a vraiment une face cachée, en fait, de la big data du tourisme qui devient assez effrayante à cette échelle, en fait.
Et à nouveau, ça va être les personnes les plus privilégiées qui vont pouvoir quand même continuer à voyager et puis les personnes avec un moindre pouvoir d'achat qui pourront plus du tout. Ce sera juste ça, le résultat.
Ouais, et en réalité, je pense que c'est déjà le cas et que c'est un peu un leurre du low cost où, en fait, oui, c'est pas cher, c'est accessible, mais en fait, ça a quand même un coût in fine et je pense que c'est assez faux de dire « Ah non, maintenant, avec le low cost, le tourisme s'est démocratisé ». Ça l'est un petit peu, mais en fait, ça reste sur une frange très minime de la population.
Oui, finalement, il y a que les pays riches qui peuvent voyager. C'est vraiment un truc de riche, en fait, de voyager.
Alors, est-ce que vous voulez un petit peu des petits chiffres?
Oui,
et puis après, on écoute.
Volontiers.
Du coup, en 2022, le tourisme mondial a doublé par rapport à 2021 en nombre d'arrivées de tourisme. Donc en fait, on est en train de remonter la pente suite à la pandémie. Parce qu'avant la pandémie, le tourisme, c'était 1500 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires. Et les prévisions de 2024 devraient de nouveau atteindre ces niveaux-là. Et à titre de comparaison, pour la Suisse, on est à 35,4 milliards de chiffre d'affaires liés au tourisme. Voilà.
Waouh.
On va à la plage. Ça vous dit ?
C'est parti pour la plage.
Allez.
une horde de touristes sauvages est allée çà et là sur nos plages, armés de leurs tubes de l'été de crème solaire à tartiner, s'occupent à griller savamment leurs bedaines, tentant de trouver là, au creux de leur linge de bain, leur petit coin de paradis promis sur le dépliant de l'hôtel Miami.
Mais purée, Alba, c'est pas ce week-end qu'on avait prévu de partir à Malaga et qu'on a dû annuler pour la grande messe ?
Mais oui, et en plus, on a loupé un événement local unique.
C'est pas vrai !
Si on avait pris notre vol EasyJet à 90 francs aller-retour pour notre petit week-end Playa, Sangria et Tapas, on aurait pu entendre « Il n'y a pas d'eau pour autant de touristes. Malaga pour vivre, pas pour survivre. Malaga ne se vend pas. » C'est les slogans qu'ont crié des milliers de personnes hier dans les rues de Malaga. Depuis quelques mois, les habitants de plusieurs villes espagnoles ont manifesté pour demander à leur gouvernement de ne pas vendre leur ville et leur quartier au tourisme. Parce que c'est ça les conséquences du tourisme de masse, les loyers deviennent exorbitants, les villes se vident de leurs habitants, les ressources s'épuisent, la nature souffre et les travailleurs et travailleuses sont exploités et expulsés des centres urbains. Le bien-être des habitantes et de la nature est mis de côté dans le but de faire du profit. Je crois que j'ai plus très envie de Playa, Sangria et Tapas.
Ah bon, ok, mais du coup, on fait comment pour pas participer à ça ?
Ça commence par accepter que nos habitudes de voyage doivent changer. Ça veut peut-être dire payer plus cher nos voyages ou bien qu'ils soient plus pénibles, parce qu'au lieu de faire 1h30 de vol pour aller à Barcelone, on fera 10 heures de train, 8 heures de voiture ou 25 heures en Flixbus. Ça veut peut-être dire oublier les week-ends de 4 jours à Rome et voyager moins souvent. Et puis faire attention à nos choix quand on voyage. Par exemple, on peut décider de ne pas louer cet appart Airbnb dans le quartier alternatif et populaire d'Athènes parce que c'est trop sympa et beaucoup plus authentique. Mais aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas dire fuck à la pression de profiter à tout prix de nos vacances et de rentabiliser notre temps libre ? Est-ce que vraiment cette semaine à Malaga va te rendre plus heureuse ? Pourquoi pas se laisser aller à la douceur de vivre genevoise ? Ici, aucune obligation de performance. Tu pars pas, donc t'as déjà perdu d'avance à la course de la meilleure vie. Donc autant l'accepter pleinement. Mais l'avantage, c'est qu'au moins là, tu connais déjà tous les meilleurs plans de la ville, les lieux alternatifs, les endroits authentiques, et tu connais les locaux. Imagine, c'est ton premier jour de vacances, et il est 10h30. T'as fait la grasse mat, parce que t'as pas besoin d'aller visiter l'acropole avant qu'il y ait 30 000 touristes et qu'il fasse 40 degrés. Tu te fais tranquillement ton café, qui te coûte 30 centimes parce que c'est toi qui le prépare. Tu te demandes ce que tu vas bien pouvoir faire aujourd'hui. Rien ne presse. Vers midi, ta pote sûre te propose d'aller chiller au bain des Paquis. Vers 14h, vous vous retrouvez au coin femme, où tu peux en toute détente enlever ton haut de maillot sans qu'aucun relou vienne te parler. Et là, c'est la routine du kiff qui s'enclenche. Tu bronzes, puis tu te baignes, puis tu lis un peu. Ensuite, tu bois un café, et enfin, tu te baignes de nouveau. Tu croises des potes qui te disent qu'il y a un concert à la scène Ella Fitzgerald à ne pas louper. Et voilà, t'as tes plans pour la soirée. D'ici là, t'as le temps de rentrer tranquillement chez toi et de te préparer à ressortir. Et le lendemain, tu remets ça. Les vacances à Genève, c'est pouvoir se laisser porter, passer du temps avec ses proches, s'approprier la ville et s'ennuyer parfois. C'est une douce routine à base de baignades, de terrasses au bord de l'eau et de concerts gratuits. Il y a de la place pour l'imprévu et pour la créativité. Je ne vais pas mentir, c'est difficile d'accepter que peut-être que voyager de façon éthique, ça veut dire partir moins souvent et découvrir moins d'endroits. Mais peut-être qu'au final, ce n'est pas plus mal de profiter de chez soi.
Bah, c'est vrai que c'est des bonnes recommandations. Est-ce que du coup, ça vous a fait changer d'avis ? Est-ce que Laure, tu vas, au lieu de partir loin, tu vas rester à Genève cet été ?
Mais je crois que je vais partir loin, mais en train. Du coup, c'est un peu
du coup, c'est bon, ça marche. Ça va. C'est dans les cases. Ok, alors pour revenir à Mara, on lui a demandé comment sortir de la relation d'interdépendance entre les personnes locales qui vivent à l'année et les touristes qui viennent s'amuser pendant les vacances.
Déjà, la Sardaigne est une région qui avait comme économie principale traditionnelle celle de l'agro-pastorale, l'agriculture et l'élevage. C'est qu'il y a un secteur qui se affaiblit de plus en plus parce que carrément il y a une concurrence de toute autre économie qui rentre en jeu, notamment celle du tourisme. Mais il faut aussi se dire que je trouve qu'il y a un problème de politique publique, de soutien à certains types d'économies plutôt que d'autres. C'est-à-dire que, bah, par exemple, au lieu de soutenir cette économie déjà intégrée et faisant partie de l'identité sarde, que c'est celle de l'agriculture et de l'élevage, à un moment donné, vers les années, enfin à partir, je dirais, des années 70-80, il y a eu un énorme boost de l'industrie. En gros, il y a énormément d'industries qui ont été implantées en Sardaigne, certaines très, enfin, à un coût très cher et pour l'environnement et pour même la santé finalement justement des humains. Et c'est un modèle qui a vite, comment dire, clashé. Ça a pas vraiment bien tenu. Au détriment justement plutôt de après du territoire. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, bah, il y a eu ces modèles qui a été imposé et qui n'a pas particulièrement marché. Et aujourd'hui, comme réponse, les gens essayent de cultiver des activités tertiaires de tourisme parce que suite à ce changement radical de qui est passé d'un système à l'autre. Aujourd'hui, vis-à-vis, pour les personnes, l'économie du tourisme, c'est l'économie qui est facilement accessible, qui est facilement viable, si on considère quelles sont les ressources de la Sardaigne. Et parmi d'autres choses, les ressources de la Sardaigne, c'est des magnifiques paysages. Et par contre, malheureusement, il n'y a pas un réel soutien qui est apporté, structuré, je dirais, de la part de politiques publiques par rapport au tourisme. Et du coup, il y a un tourisme qui se fait pas trop coordonné, de manière privée, de manière autogérée, autonome, pas autogérée dans le bon sens du terme, mais je veux dire autonome, chacun dans son coin, et il n'y a pas une vision collective de support d'une réelle politique touristique. Et par exemple, ça pour moi, c'est très important quand on pense à l'interdépendance justement entre les locaux et l'économie du tourisme. Et me vient en tête un exemple, celui de la Maddalena, qui est une île, même en vrai c'est un archipel dans la partie nord-est de la Sardaigne. Qui par exemple aujourd'hui cherche à refaire son économie à travers le tourisme, parce que pendant des décennies elle avait été occupée jusqu'à 2008, si je me trompe pas, par un avant-poste très très important de militaires américains de l'OTAN, qui avait en gros augmenté la population de l'archipel de genre un tiers, et que du coup en fait les personnes, enfin les gens, les locaux tout d'un coup avaient trouvé dans la présence de ce militaire, de cet avant-poste, une énorme source de bénéfices en fait, parce qu'il leur louait des appartements, les supermarchés marchaient grâce à eux aussi, toute l'économie aussi de la restauration, etc., etc. Et tout d'un coup, quand l'OTAN a changé de stratégie et les militaires sont partis en 2008, et ben l'archipel s'est retrouvé avec une économie qui ne marchait plus, des infrastructures à nouveau des vies qui se sont vidées, et qu'aujourd'hui les gens essayent de combler ce vide avec le tourisme. Et en fait nous avec mon collectif Hétérotopia, avec lequel je travaille en Italie, on avait fait une recherche là-dessus, en finalement arrivant à la conclusion que il ne s'agit que aux différents types d'occupations. Je ne sais pas si on va utiliser les termes du colonialisme dans ces cas-là, mais il s'agit quand même d'occupation, d'abord de militaires, ensuite quand même du tourisme, et c'est quand même ces occupations qui sont saisonnières, qui sont temporaires, qui alimentent de manière très faible l'économie, avec toujours le risque d'être de ne pas être durable. Et c'est pour ça que je parle finalement d'économie publique, qui devrait aider en fait à potentiellement de pouvoir mettre en place une réelle économie juste plus ancrée dans les territoires et moins casse-gueule, moins extractive en tout cas, pour peut-être un modèle de tourisme alternatif. Je dis ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait vraiment être, un modèle de tourisme alternatif. Comme quelqu'un disait, nous sommes tous touristes, mais nous détestons les touristes.
C'est justement marrant cette histoire de pays qui basent leur PIB et leur économie sur le tourisme, parce qu'il y a toujours ce risque que les touristes partent, comme elle disait justement lorsqu'il y a eu un retrait des troupes en Sardaigne, ou bien on parlait justement en parallèle du Covid. Pour plein de pays comme la Thaïlande ou pour le Kenya qui basent maintenant leur PIB sur le tourisme, c'est juste catastrophique en fait quand il y a un arrêt de ces personnes-là. Et du coup, il y a un certain risque en fait. Ça rapporte beaucoup le tourisme, mais c'est aussi une économie assez précaire et assez fragile selon les catastrophes naturelles ou bien les maladies.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi des effets de mode. Il y a des endroits qui sont très à la mode à un moment. En tout cas, en Grèce, c'est vraiment assez flagrant. Il y a des îles qui sont the place to be à l'été 2015. Et l'été 2016, c'était fini. Il n'y a plus personne, justement, parce que ça devient trop touristique. J'ai vu que cet été, par exemple, les réservations pour Mykonos et Santorin, qui sont vraiment les îles les plus touristiques, ont fortement diminué. Et maintenant, les gens cherchent des plus petites îles un peu méconnues. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux.
C'est pareil avec les catastrophes naturelles. On parlait de la Thaïlande, en fait, un tsunami. Bah, typiquement, c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir et qui va avoir un impact économiquement parce que forcément, tu n'as pas envie d'aller dans un pays à risque. Ou pareil pour les zones de guerre, etc. En Europe, c'est 10% du PIB, le tourisme, et donc ce qui en fait un des secteurs les plus lucratifs. À votre avis, c'est quoi les trois destinations principales ?
En Europe ?
Dans le monde.
Dans le monde ? Thaïlande ?
Non.
Non, même pas ?
Ouais.
La France, non ?
Ouais, France, ouais. C'est number one.
Paris.
Je pense que c'est Paris. Ouais.
Ça ramène tous les touristes.
Et puis, l'Italie ?
Non. Mais ça sera... C'est Espagne en deux et les États-Unis en trois. Et ça bouge assez peu sur les années, en fait. Vraiment le top 3, comme ça.
Parce que je croyais que le tourisme venait principalement de la Chine. Où il y a un énorme marché touristique. Mais je pensais pas qu'il venait jusqu'en Europe, aux États-Unis.
Bah Paris, c'est pour le coup, je pense que c'est... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, le montant qu'un touriste dépense n'est pas du tout le même en fonction de s'il est espagnol ou s'il est chinois ou s'il vient des pays du Golfe.
Et c'est lesquels les touristes qui dépensent le plus ?
À ton avis ?
Je sais pas.
C'est ceux qui ont déjà un plus gros pouvoir d'achat et donc qui viennent d'un pays avec un niveau de vie plus élevé. Donc en fait, il y a toujours cet rapport aussi un peu... néo-colonialiste où en fait je viens sur un territoire où je sais que je vais pouvoir me permettre des choses vis-à-vis de ma situation sociale et de ma provenance qui sont différentes.
Ouais, j'ai vu un mime l'autre jour qui disait un truc genre tu pars de Genève pour économiser de l'argent ou un truc comme ça, et c'est malheureusement un peu vrai. Enfin, si tu, par exemple, si t'es un digital nomade et que tu pars vivre à Athènes, vivre ta meilleure vie dans les petits cafés du coin, bah effectivement, ça va te coûter rien du tout, sauf que tu vas largement contribuer à faire augmenter le coût de la vie.
Et après, du coup, où vont les personnes d'Athènes pour se dire « Ah, je vais aller moins cher
dans la merde. » Elles ne peuvent pas tellement faire ça.
Et puis, une fois, j'avais été en vacances sur les plages au Portugal. Et ce que j'avais détesté dans le sud du Portugal, alors méga incroyable cet endroit, super beau, super belle plage, super bonne bouffe. Mais tu trouves parfois tout des English breakfast et tous les écrits en allemand et en anglais. Et du coup, t'as des English breakfast pour genre 1 euro, et genre trop pas cher. Et en fait, tu retournes dans d'autres pays, faire ce que t'as l'habitude de faire chez toi, mais sur des plus belles plages et moins cher.
On a une petite surprise par rapport à ça tout à l'heure.
Alors peut-être qu'on écoute Logic Coco en attendant.
Logic Coco.
Sur la plage, toi sur le dos, les coquillages tombent par et haut. Je sais, je t'invente un maillot. C'est la mer du Nord, mais avec toi, tout est lancinant, ça devient Rio. Tout est lancinant, mais tout est trop chaud. Pourtant ce soir, il fera zéro. C'est la mer du Nord. Toi, tout est lancinant, ça devient Rio. Tout est lancinant et tout est trop chaud. Pourtant ce soir, il fera zéro. Palmiers, les nuages dans le soleil sont tropicaux. Et le bronzage de tes fesses dessine un cœur vulgaire mais beau. Comme notre amour. Et palmiers, les nuages dans le soleil sont tropicaux. Et le bronzage de tes fesses dessine un cœur. port du Nord, mais avec toi, tout est lancinant, ça devient Rio. Tout est lancinant et tout est trop chaud. Pourtant ce soir, il fera zéro.
Virginie Stéphanie, qui se fait appeler Nini, vit entre Paris et le Portugal. Elle est l'une des figures bien connues des expatriés branchés de Lisbonne.
What's up ? Ça va et toi ?
L'incarnation de la gypsetteuse, plus gypsy que jet set. Avec ses deux frères, Romain et Nicolas, elle a réalisé ici son rêve, monter en famille un restaurant de plage. Un lieu devenu en moins de 2 ans, l'un des beach clubs les plus courus de Lisbonne.
Coucou, comment ça va ? Ravie de te rencontrer, je suis Nini. Bienvenue à Irmao.
Heureux de te rencontrer, Nini.
Merci d'être venue avec ta famille.
Ce chanteur australien y célèbre aujourd'hui l'anniversaire de l'un de ses amis.
On adore venir ici parce qu'ils ont de la très bonne musique. On s'y sent bien, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas si facile de trouver des lieux comme celui-ci au Portugal ou ailleurs. Le Portugal a de bonnes adresses, mais cet endroit est très particulier.
Waouh! Ça en dit long! C'est exactement ce que tu nous disais, d'aller chercher exactement son confort ailleurs. C'est assez étonnant. D'ailleurs, le chanteur australien qui dit qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits comme ça au Portugal. Bah oui!
Effectivement! Et puis que c'est différent. Enfin,
oui, c'est différent.
Il y a un truc un peu différent s'ils sont chez soi.
J'ai appris aussi un terme gypsetteuse qui manquait à ma vie.
Je pense à la mienne aussi.
Et moi, j'ai appris un autre terme dans le genre, c'est le blazer. C'est la contraction de business et leisure. C'est du coup un peu ce nouveau tourisme autour des personnes qui se déplacent régulièrement pour le business. Et donc, en fait, elles vont, avec les espaces de coworking et tout ça, elles vont rester plus longtemps. Et donc, soi-disant, elles vont avoir un impact un peu plus positif parce qu'elles vont avoir un mode de vie plus proche du mode de vie des habitants locaux.
Du fait que tu viens pour le travail et que du coup tu vas rester un moment.
Ouais, tu vas rester plus longtemps et puis tu vas avoir peut-être ton habitude au café en bas de la rue. Et du coup tu vas prendre exactement la même chose que tu prendrais chez toi dans le même décor, servi par le même genre de personnes. Et donc tu vas pas du tout sortir de ta zone de confort, mais tu vas quand même être ailleurs et tu vas pouvoir poster des stories sur Insta.
Ouais, mais du coup tu peux pas vraiment t'organiser sur place, participer à la vie politique, la vie sociale C'est un peu une petite bulle, quoi.
Ouais, mais bon, là, c'est vraiment, je pensais même sur des durées courtes, mais c'est au lieu de dire je viens à la journée, je reste 4 jours, quoi. Mm. Je crois qu'on est quand même sur de...
Ah oui, d'accord, on reste sur du...
De la durée assez limitée.
Bon, on va enchaîner sur la dernière question qu'on a posée à Mara. On lui a demandé, est-ce que les solutions type écotourisme sont de vraies solutions ou est-ce que c'est du marketing qui va à long terme avoir les mêmes effets, voire pire, vu qu'on va peut-être encore plus s'autoriser à voyager en pensant que c'est OK ?
Par rapport à la Sardaigne, j'ai pas forcément vu ce modèle ou ce type de discours s'imposer ou s'affirmer. Je dirais que de manière théorique, ça pourrait, c'est un modèle peut-être, c'est des idées qui ont du potentiel. Surtout, par exemple, face à des problématiques liées au tourisme en Sardaigne, qui est un tourisme de masse saisonnier, impactant, très temporaire, très détaché, comme on disait tout à l'heure, de l'identité, finalement, la vraie identité du territoire. Et du coup, je veux imaginer que des solutions ou des propositions de modèles d'éco-tourisme essayent de répondre à ces problématiques en proposant des... une manière de vivre le territoire qui soit plus responsable. Mais c'est vraiment ce concept de responsabilité que j'aimerais interroger. Parce que, bah, comme vous le sous-entendez, je pense, avec cette question, quand on dit écotourisme, bah, on veut mettre un label, en fait, sur une proposition. Et comme souvent ça arrive, les labels, enfin, sont juste effectivement des véhicules de propositions de marketing, des véhicules des idées un peu à vendre. Et je trouve en fait que si on souhaite visiter un endroit et on se met dans les mains de quelqu'un qui nous propose de l'écotourisme, moi je trouve que à nouveau quand même, quelque manière, on se déresponsabilise de s'assurer qu'on visite et on vit cet endroit de manière responsable, de manière pertinente, quelque manière, ou la plus sensible possible. Et c'est ça qui me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'en fait, l'écotourisme, bah, c'est un peu de modèle où ça me donne cette impression que les gens adhèrent à ces modèles-là en se disant, si c'est écotourisme, c'est bien, je vais les faire. Un peu comme les labels bio, vous voyez. Et sans vraiment savoir, en fait, après, quels sont tous les démarches les manières qui sont mises en place pour vraiment garantir, en fait, que ce type de tourisme, ça soit sensible et respectueux.
On m'annonce à l'oreillette qu'on est un peu des grands-mères catastrophistes du village et qu'on n'a fait que de dire des choses négatives sur le tourisme. Donc, je vais un peu reprendre les choses en main pour vous ramener un peu de joie.
Non, on a dit que c'était une économie importante et que, suivant les conditions, ça pouvait mettre en péril des familles locales.
C'est vrai.
Un peu.
Je te remercie. Et je vais également, du coup, amener un peu d'optimisme de cette autrice qui s'appelle Sylvie Brunel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La planète Disneylandisée ». Ça n'a pas l'air très joyeux, mais elle a une petite note positive. Elle nous dit « Soyons fiers d'être touristes, fiers car le tourisme dessine une mondialisation pacifique, permet à bien des sociétés d'éviter l'exode, favorise la transmission des cultures, sauve des traditions menacées de disparition ».
C'est beau. Je propose qu'on passe un petit morceau de musique pour réfléchir à ces paroles.
Alors, c'est Tôle froide et vacances.
J'espère que vous appréciez notre playlist spéciale vacances et qu'elle vous emmène loin, loin de vos pensées. Place maintenant à l'agenda des actualités féministes concocté par Laure.
Et oui, les vacances commencent avec leur lot de fêtes et de soirées, mais avant ça,
place aux sportifs et sportives avec les running sessions estivales organisées par Voguet. Alors, il faudra aller à Lausanne les lundis ou à Genève les mardis. Mais promis, pas besoin d'y aller en courant, vous pouvez prendre le train si c'est pour Lausanne. La première session est déjà ce lundi. Ensuite, si toujours après le petit running, vous avez envie de sortir, sachez que c'est la scène Ella Fitzgerald qui va rythmer notre été pour les genevois et genevoises fans de musique commence. Et lundi, vous aurez déjà l'occasion d'écouter La Chica et El Duendo Orchestra, pop chamanique orchestral, ça a de quoi bouger. Le mercredi 3 juillet, toujours à Genève, si vous avez envie d'un chose un peu plus ludique, un peu plus créatif, la place des grottes est à vous, avec des activités gratuites organisées au milieu des grottes. Vous aurez peut-être même l'occasion de venir nous faire un petit coucou à Radio Vostok. Le jeudi 4, on retourne à Lausanne, encore une fois, écouter Billy Bird et Les Flamboyantes. Billy Bird, une artiste qu'on connaît bien ici à Vostok, elle sera au Festival de la Cité à 20h30. Retour à Genève, vendredi 5 juillet, avec le Café Poly à l'Estime, une session de discussion autour du polyamour en mixité choisie sans homme cis. Samedi 5 juillet, toujours, si vous voulez finir la soirée avec un petit peu de musique, vous pourrez vous rendre écouter Yendri à la scène Ella Fitzgerald. C'est du latin R&B, concert complètement 100% gratuit à partir de 21h. Toujours à Genève, si après le concert vous voulez vous déhancher, vous pourrez aller au temple, au rooftop 105 dès 23h pour la fusion. Le collectif queer Le Temple livre un troisième volet de son concept fusion, cette fois en collaboration avec Cousine Officielle. Et pour les fans et les geeks dont je fais partie, le Groove organise une soirée Avatar, The Last Kiki Bowl. Alors, la musique peut-être autour du dessin animé Avatar, je ne sais pas, en tout cas, moi j'y serai. On fait un petit saut dans le temps jusqu'au mercredi 10 juillet, toujours sur la scène Ella Fitzgerald, il y aura de la flamenco pop avec Las Migas dès 21h. Le 18 juillet, si alors là c'est l'occasion de bouger, elle est à Martigny voir nos amis valaisans pour la Martigny Pride. Alors ça commence vendredi dès 18h, mais c'est comme d'habitude tout le week-end. Si vous voulez les soutenir, les trois LGBTQ+, ce sera à Martigny cette année. Et si les manifestations, ce n'est pas trop votre délire, mais que plutôt vous êtes porté écologie, sachez qu'il y aura une conférence à Genève aux rencontres Connaître pour nommer, nommer pour protéger. On va parler d'arbres, le Sapotaceae de Madagascar, une famille d'arbres menacés par les activités humaines. Alors un petit point sur comment les protéger et mieux les connaître. On finit cet agenda avec le dimanche 21 juillet, dès 20h30, il y aura Alice. Le trio féminin Alice, c'est une micro-chorale de 3 personnes. Vous pourrez les retrouver toujours à l'Espidéral dès 20h30.
Merci Laure pour cet agenda du mois de juillet. On se réjouit de se retrouver dans des parcs, surtout.
Visiblement, ouais.
Et de se déhancher par-ci, par-là. Voilà. Je voulais voir si vous aviez une dernière réaction comme ça à chaud. Voilà, chers auditeuristes.
Est-ce que tu sais, oui, Chris, qu'en 2023, la Grèce a battu le record de fréquentation avec 33 millions de touristes ?
Non, je ne savais pas. Et est-ce qu'on sait combien il y en aura cette année ?
Alors justement, il y a des projections qui ont été faites, je ne sais pas comment, sur 2024 avec 37 millions de touristes. Donc quasiment 4 fois la population grecque.
Eh bien, je crois que mes copaines grecques auront encore plus de mal à partir en vacances. Mais heureusement, il y a le mouvement des serviettes. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des serviettes, mais non, c'est contre la privatisation des plages. Et c'est les Grecs et les personnes qui vivent sur les îles qui prennent leurs petites serviettes de chez elles et qui les posent sur la plage en contestation aux plages organisées qui coûtent de plus en plus cher. Je crois qu'il y a des transats qui coûtent plus de 100 euros. Ouais, à Mykonos, entre autres.
C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a pas mal de, au niveau local en fait, de manifestations à Venise aussi contre justement ces paquebots de 22 étages ou je sais pas combien. Enfin, il y a 6000 personnes qui arrivent d'un coup. Et donc, tu as vraiment un mouvement populaire à Barcelone aussi où ils écrivent sur les pavés ton tourisme tue mon quartier. Il y a une radio locale qui a été alimentée sur les Ramblas, Radio Ramblas, où vraiment ils occupaient l'espace public en faisant cette radio un peu pour dénoncer l'impact sur les vies quotidiennes des habitants du quartier qu'ils donnent sur les Ramblas. Et à l'inverse, il y a aussi des personnes qui vont manifester, par exemple les gondoliers qui vont se dire « Attendez, non, nous, en fait, on a besoin du tourisme. » Parce que même ceux qui sont sur les bateaux et qui ne consomment rien, ils viennent faire un tour en gondole.
Hmm. Ok. Bah, à Athènes aussi, il y a pas mal de tags assez rigolos. Comme par exemple « Tes cocktails puent la merde ». Et par contre, ce qui se passe, c'est que les touristes prennent des photos ensuite avec les tags et font
et des selfies. Ça devient populaire.
Ça devient cool, ouais. Est-ce que cette fois c'est la fin ?
Je pense oui. que c'est la fin.
Bon voilà, chers auditeuristes, notre émission touche à sa fin. C'était la dernière pour cette saison de la Grande Messe. Merci à toutes les personnes qui y ont participé. Aujourd'hui, merci à Candice, ma co-animatrice, Alba pour sa chronique et le reste de ses réactions, Karine pour la com, Mara Ouzaï, notre experte invitée, Laure pour l'agenda, la technique Enco. Stéphania pour les réflexions et le behind the scenes. Merci à Clorinda également. Bonnes vacances, redécouvrez vos régions, lisez un livre sur votre destination de rêve et tentez très fort de le visualiser depuis votre canapé ou votre balcon, ce sera super. Et si vous partez quand même, bah, c'est pas grave, dites-vous que de toute façon, les pires touristes, c'est toujours les autres. On se revoit fin septembre pour notre prochaine saison de La Grande Messe. Ciao.
Lavostock.ch